France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Dorothée Monialesa. 19h40, Affaires critiques. Lucille Comeau nous parlera de Terminus Malocène de Daniel Pénac. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier à l'occasion de la diffusion de la série Makanaï de Kore-eda sur Netflix. Steven Sarrazin, professeur à Paris 8 et à l'Université d'art de Tokyo, nous expliquera comment le cinéaste déjoue tous les codes des séries contemporaines. 19h50, Affaires à suivre. En compagnie ce soir de la metteuse en scène Julie Berès, le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Ludovic Auger et Grégory Wallon à la prise de son. Bonsoir Dorothée Monialesa.
Bonsoir.
Vous présentez votre dernier spectacle en date, Maï, du 25 au 28 janvier au Théâtre National de Chaillot, ce qui me donne l'occasion de revenir avec vous sur quelques moments importants de votre parcours, en commençant par rappeler que vous êtes né à Kigali, au Rwanda, que vous aviez 12 ans quand le génocide a eu lieu. Et avant ce génocide, il était déjà prévu que votre famille et vous-même alliez retrouver votre mère qui travaillait à Londres déjà à ce moment-là. Vos parents donc avaient décidé de quitter le Rwanda et puis ce génocide arrive, a bien failli empêcher cela, mais bon, pour une fois, des heureux hasards de la vie ont permis que vous vous installiez à Londres. Pour autant, on va en parler évidemment, votre pays, cette histoire, on nourrit votre travail d'artiste, mais en tout cas c'est en Angleterre que vous passez votre adolescence, où vous apprenez notre langue au lycée français de Londres, et puis plus important encore, vous suivez les cours gratuit de musique dispensée par la Fondation Jonas à Londres. Qu'est-ce qui se passe là pour vous ?
Eh bien, je pense que pour la première fois, je réalise qu'il est possible de suivre vraiment des cours. Parce que j'avais été formée par mes grands-mères ou bien même mes parents, parce que je passais beaucoup de temps avec eux à chanter. Mon père est pasteur, donc je peux vous dire qu'à la maison,
ça chante.
On priait beaucoup et on chantait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'était une grande joie. Ce n'était pas du tout un moment de longue attente ou d'ennui, au contraire. Et donc, en arrivant en Angleterre, j'ai rencontré la personne qui a créé la Fondation Jonas, Christine Ziegwart, et elle m'a invitée à prendre des cours, tout en commençant par aller chez elle, puis à l'école. Et elle m'a complètement dit si je veux poursuivre les études en musique, elle pourrait également les payer. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, elle a vraiment tout fait pour que je sois formée, que je sois très bien formée. Et cette transmission de ce qu'elle avait comme connaissance musicale, comme empathie aussi, parce que c'est une personne vraiment qui cherche à lier l'humain, nos parcours, surtout parce que c'était des jeunes enfants qui avons traversé des épreuves qu'elle invite vraiment dans cette école, principalement, et de pouvoir les réunir autour d'un langage qui est celui de la musique. Et de me trouver une professeure de chant, deux professeurs de chant, puis à l'université, c'était vraiment extraordinaire. Et je lui en suis encore reconnaissante à ce jour.
Quelques années plus tard, vous participez à la bande originale du film Hôtel Rwanda de Terry George. On va écouter une plage très courte de cette musique. Ruzi guseka neza urabara ruzi kufata neza urabara ruzi kubyina neza urabara uba mwiza ukabaruta uri mwiza uri mwiza uri ngabire mwarurabaruta urabara ruzi gukunda abandi urabara ruzi kwakira abandi urabara ngaruka bateka amatwi urabara uba mwiza ukabaruta uri mwiza uri mwiza Urabaruta, 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 urabaruta Que disent les paroles de cette chanson que vous chantiez en même temps qu'on l'écoutait, Dorothée Mounianeza ?
Ah, ça fait du bien d'entendre la voix de mon frère, surtout. Ouais. C'est un chant pour parler d'une jeune femme. Mwari, c'est une jeune femme, c'est une personne qui n'a pas encore été mariée. Et pour dire, c'est un chant d'éloge en fait, pour dire tu sais bien rire, tu sais bien t'occuper des autres, tu sais parler aux autres, tu sais t'occuper des plus jeunes. Enfin, c'est vraiment, c'est que des qualités. D'ailleurs, je ne sais pas qui est cette jeune femme, parce que moi-même, je n'en ai pas encore rencontré, mais... c'est un chant, oui, pour célébrer la jeune femme telle qu'aussi on l'imaginerait. Mmh. Et Mwari, ce chant est arrivé en fait pendant donc l'enregistrement de la bande sonore de Hotel Rwanda, et je venais de faire des voix off avec mon frère et ma grande sœur d'ailleurs. Et à un moment donné, l'équipe de production du film me dit « Ah, il y a un autre morceau qui manque dans notre film, est-ce que ça vous dirait de... » Donc là, je l'ai composé assez rapidement, et mon frère était partant pour chanter avec moi sur « Mwaruzigu, Tinaneza, Mwari, Mwari ». Et c'était bien que ce soit lui qui fasse l'appel, et moi je réponds en fait. Et « Uri mwiza, uri mwiza, uri mwari, uri ngavire, mwarurabaruta ». Ça veut dire « Tu es tellement belle, tu es un cadeau, tu es tellement belle, tu es au-delà, tu es au-dessus des autres ». Donc voilà, c'est un morceau qui me rappelle un moment joyeux.
Puis il y aura quand même aussi un album solo en 2010, produit par Martin Russell, que vous aviez rencontré avec le groupe Afrocelt Sound System. Est-ce que vous avez eu envie depuis de renouveler l'expérience, ou est-ce que la danse a pris trop de place? Le spectacle, pas seulement la danse.
Oui, oui. Martin Russell m'a invité à plusieurs reprises d'enregistrer de nouvelles choses, ou en tout cas de revenir sur certains morceaux qu'on n'avait pas eu l'occasion de mettre sur l'album. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la danse et la chorégraphie, ou en tout cas la musique telle que je l'imagine dans le spectacle vivant, a pris le dessus. Cependant, je commence à rêver de retourner dans le studio pour enregistrer de nouveaux morceaux. Donc... Attendez, vous allez voir.
Bon, ben, bonne nouvelle, alors, j'espère. Alors, ça ne va pas empêcher, par ailleurs, les collaborations, comme ça a été le cas avec James Braid. Et puis, à propos de musique, Dorothée Mounianeza, votre choix musical s'est porté ce soir sur un morceau de Ben Lamar Gay, un compositeur, multi-instrumentiste, chanteur, poète de Chicago. Et vous avez collaboré avec lui en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cet artiste?
C'est un artiste hors norme, je trouve. C'est vraiment un grand, grand, grand musicien. J'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois à Lagos, au Nigeria, lorsque nous étions invités par Kudu Sonic Eku à l'édition de Dance Gathering, qui est vraiment un temps de laboratoire et de rencontre entre différents artistes d'Afrique et de la diaspora afrodescendante. Et je ne connaissais pas Ben Lamar Gay jusqu'à le rencontrer à l'aéroport à Lagos. Et le lendemain, on s'est retrouvés à faire une improvisation. Il a pris son cornet, donc ça ressemble à une trompette, et il a commencé à jouer. Et moi, je me suis mise à chanter. Et en fait, je crois qu'il y a eu vraiment comme un coup de foudre musical à ce moment-là, et humain. Enfin, on s'est tout de suite bien compris, et j'ai voulu qu'on puisse se retrouver sur un projet. Et il s'avère que sur Maï, effectivement, quand je suis partie à Chicago pour une résidence, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et on a créé une partie de la musique qui se trouve notamment sur Maï, le spectacle.
Là, on va écouter un extrait de l'album Open Arms to Open, qui est un album de 2021 de Ben Lamar Gay. C'est le morceau In Tongues and in Droves. entraîne très très loin, Ben Lamargue et Dorothée Muñez.
Oui, et tout particulièrement ce morceau où il est dans la présence de Tommy Kerried, qui est violoncelliste. Même à l'écoutant à l'instant, enfin, je suis toujours. C'est un morceau qui m'émeut beaucoup, toutes les émotions que je peux avoir ou que j'ai pu avoir ou que je vais avoir, que j'aurai, il les étire. Mmh. Et j'ai l'impression d'essorer quelque chose, de me laver de quelque chose, de tendre vers quelque chose. J'arrive pas à très bien nommer ce que cette chose est, mais j'ai l'impression d'être comprise, en tout cas que cette musique, je vibre, il y a une sorte de vibration commune entre ces sons qu'il crée, ainsi que son instrument, puis le violoncelle, et c'est une traversée. Je suis traversée par beaucoup d'émotions qui ne sont, ce n'est pas du tout une cacophonie ou une confusion de sons, mais je le suis. J'ai l'impression d'être réellement traversée, de traverser tout un monde. Oui, il nous emmène très loin, effectivement.
Alors, je reviens à vous, on a évoqué votre album sorti en 2010, mais avant cela, Dorothée Muñez, il faut dire que vous aviez déjà commencé à arpenter les plateaux de danse, tout d'abord avec François Véret, dès 2006, dans un premier temps pour chanter, mais très vite, il vous propose de danser. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous?
C'est vrai que je me définis souvent tout d'abord comme chanteuse, musicienne, et en même temps, je pense que le mouvement a toujours été là. Tout à l'heure, je parlais de mes grands-mères, qui ont beaucoup chanté, qui me marquent même à ce jour, et qui dansaient beaucoup. Ma grand-mère maternelle, typiquement, quand elle m'accueille ou quand elle m'accueillait, elle se mettait à danser et à chanter. Et je pense que donc la musique, la danse et la musique ont toujours été là, et la rencontre avec François Véret, et le moment où il m'a aussi invitée à danser, c'était dans Do You Remember? No, I Don't. Mm. C'est comme si j'étais prête, en fait. Ou en tout cas, il m'a proposé, au moment où je me sentais moi-même prête à me mouvoir sur un plateau. Danser, ça, c'est un langage que j'ai depuis longtemps. Et j'avais eu le temps d'observer et François Véret et tout le monde qui était sur le plateau, tous les autres danseurs, performeurs qui étaient sur le plateau. Et moi-même, je commençais à créer tout un langage physique, corporel, chorégraphique, qui m'a permis de danser dans Do You Remember? No, I Don't. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a énormément plu comme démarche, à tel point que quand d'autres chorégraphes et metteurs en scène m'ont invité, je n'ai pu que répondre par un oui, un grand oui.
C'est vrai qu'il y en a eu d'autres. Moi, j'ai un très fort souvenir de Do You Remember? No, I Don't. Il y avait aussi Séverine Chavrier qui était là, au piano. On en a parlé il n'y a pas si longtemps avec elle. Mais interprète donc pour Robin Orlin, pour Hachindou Ramdan, pour Mark Tompkins, pour Komor Bouchi, d'autres. Est-ce que c'est aussi pour vous, ces moments-là et ces rencontres-là, une façon de définir ce qui va devenir votre vocabulaire de danseuse et de chorégraphe?
Absolument. Ça a été... Je pense que dans le moment, peut-être c'est avec du recul que je commence à voir un cheminement clair entre les choix que j'ai pu faire ou les propositions qu'on a pu me faire à cette époque. Mais à chaque fois, chaque rencontre, chaque création a contribué à aiguiser un peu plus mon regard et l'envie que j'avais de moi-même créer quelque chose. Et à chaque fois, ça arrivait pile au moment où j'étais prête. C'est marrant, hein. Ça arrivait vraiment au moment où j'étais ouverte, disponible. J'ai jamais eu peur d'expérimenter. Et c'est les rencontres, en fait, finalement, qui façonnent tout mon parcours. Et ces rencontres-là ont lieu vraiment au moment où je suis prête pour elle. Et celle avec... Enfin, chacune a été vraiment très importante. Et celle avec Alain Buffard, par exemple, la toute dernière, également. a en fait provoqué ce qui deviendra Samedi Détente, ma première pièce de ma compagnie. Et réellement, oui, j'ai été marquée. Chacune a laissé une trace indélébile sur moi et ma façon de créer jusqu'à ce jour.
Alors effectivement, en 2013, vous créez votre compagnie, Kadidi, puis la première création, Samedi Détente, c'est en 2014. Samedi Détente, c'était le nom d'une émission musicale du Rwanda que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune. C'était tous les grands tubes qui passaient.
Absolument.
Et donc ça permettait de chanter, de danser. Et puis après, évidemment, les amis avec qui vous le faisiez, il y en a beaucoup qui sont plus là suite à ce génocide. Ce spectacle nourri, bien sûr, de votre propre vie, Dorothée Mounialza, et vous le créez donc 20 ans après le génocide. Nécessité de raconter, de témoigner par la danse, par la poésie, par la musique, musique expérimentale. En l'occurrence, vous parlez de vos grands-mères, mais il y avait votre grand-père aussi qui, pour raconter, mêlait justement récits, chants, danse.
Oui. Mon grand-père maternel, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais le père de mon père, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. À tel point que ça m'arrive parfois de sentir son odeur. Il fumait une pipe, donc j'aimais beaucoup me blottir contre lui quand il racontait notamment des histoires. Et le récit, les récits qu'il a pu nous transmettre, je pense, m'accompagnent encore aujourd'hui. Et accompagne notamment mon père, parce que c'est un grand conteur également. Et je me souviens de lui, notamment pendant qu'on fuyait, pendant le génocide des Tutsis en 94, qu'il était devenu menu. Non pas parce qu'il était vieux, mais il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'enfant, quand mon père le portait, parce qu'il était beaucoup plus vigoureux. Et cette image m'a marquée parce que notre père nous avait laissés sous un arbre et avait rebroussé chemin pour aller chercher son propre père, parce que mon grand-père s'était non pas égaré sur le chemin, mais il avait décidé de retourner dans son village parce que il y avait une vache qu'il aimait beaucoup, qu'il avait dû laisser, et donc il avait disparu. Donc mon père nous a laissés et est allé chercher son propre père, et en revenant, il le portait vraiment comme un enfant. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais ses récits demeurent, et je pense que c'est ça qui parfois résiste à l'anéantissement. C'est ce qu'on laisse comme trace, comme voix, comme chant, comme poésie, la voix qu'on porte.
Alors, voix, des voix, ça c'est le spectacle suivant, Unwanted, présenté en 2017 au Festival d'Avignon, et puis il s'agissait là de faire entendre des femmes victimes de viols pendant le génocide, mais aussi la voix des enfants nés de ces crimes, donnés à entendre très littéralement, parce qu'il y avait des amplis cachés dans les objets, des pédales de loupe, pas mal d'outils technologiques, ça c'était mis au point par le compositeur Alain Mahé, mais d'abord il a fallu recueillir des paroles. J'ai souvent parlé ici, et je sais que vous y êtes sensible, au livre de Svetlana Alexeïevitch, prix Nobel de littérature, qui elle-même a recueilli tant et tant de paroles pour en faire des livres qui sont absolument les mots, mais qui sont quand même dans la littérature, de la même façon que vous avez recueilli des mots et vous en avez fait un spectacle, en l'occurrence Unwanted. Mais comment est-ce que vous avez cousu tout cela?
Oui, tout d'abord, je me suis rendue au Rwanda, donc pour rencontrer des femmes qui ont été, des femmes rescapées, donc du génocide des Tutsis, et qui avaient été victimes de viols et de violences sexuelles pendant le génocide. Et notamment, celles que vraiment je souhaitais rencontrer, c'était celles qui étaient devenues mères, en tout cas qui ont donné naissance aux enfants de leur bourreau. Parce que la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on aime cet enfant? Est-ce possible d'aimer un enfant né d'une telle violence? Et fort heureusement, il y a une association qui s'appelle Sevota, où Godlive Mukasarasi s'occupe de ces femmes mères et de leurs enfants nés du viol. Donc ce ne sont plus des enfants, ce sont des jeunes femmes et hommes qui savent pertinemment bien qu'ils sont nés de viol. et donc ils sont enfants de victimes et de bourreaux. Et le livre, notamment de Jean Asfeldt, Un papa de sang, m'avait beaucoup marqué à cette époque. Et je voulais comprendre comment est-ce qu'on se définit, quel type de jeune homme, de jeune femme est-on quand on est, né de cette façon-là. Et donc d'abord, il a fallu passer du temps, beaucoup d'heures à écouter et enregistrer leurs paroles, les regarder, les observer, observer leurs gestuels, que ce soit les gestuels des mères que des enfants, et m'imprégner, absorber dans mon propre corps, dans ma chair, ce qu'ils ont subi, ce que c'est d'être un enfant non désiré. Et parce que ces enfants-là aussi ont vécu des violences de la part de leur famille, enfin la famille de leur mère, parce que la plupart ne connaissent pas qui est le père. Donc la famille de la mère qui souvent les rejetait parce qu'il leur rappelle ce grand malheur qui est le génocide des Tutsis, donc le génocide qui a décimé quasiment la majorité de leur famille. Et donc je pense même que le fait de l'avoir tellement absorbé, moi-même j'ai développé une certaine souffrance, même physique, de comme si leurs paroles, le fait de les avaler ou en tout cas de me les approprier, a eu des conséquences réelles sur mon propre corps. En tout cas, sur scène, c'était important de traduire en direct, de ne jamais m'habituer à ce que j'entendais, de ne pas le traduire à tel point que je deviens insensible. C'était important que moi-même, je ne sois pas... ça ne devienne pas automatique de traduire les récits de ces femmes et de ces enfants. Et donc, il m'a fallu aussi bien à Alain Maillet, donc le compositeur, mon collaborateur vraiment de longue date, et à Holland Andrews, qui est aussi musicienne, compositrice, de tout le temps nous remettre dans le récit, nous remettre entre les mots de ces femmes pour réellement incarner et donner à entendre et à voir ce que c'est d'être unwanted, parce que elles-mêmes sont non voulues, elles ont souvent été rejetées encore une fois par leur famille parce que elles ont accepté de préserver cette vie. Et ces jeunes enfants qui aujourd'hui sont encore là, et ces mères qui sont encore là. Et donc c'était aussi important pour moi de ne pas oublier qu'ils sont encore vivants, et qu'il s'agit bien aussi de cela, de cette vitalité-là. Certes, ils ont été anéantis, mais qu'on ne peut pas oublier. On ne doit pas oublier, parce que c'est un crime, malheureusement, qui ne concerne pas que ces femmes rescapées du génocide des Tutsis, mais aussi au Congo, au Tchad, aujourd'hui en Ukraine. Enfin, c'est malheureusement un crime épouvantable qui touche à notre humanité.
Et puis des récits, des femmes, ça nous permet d'en venir à votre nouvelle création, Maï. Avant ça, je vous propose d'écouter tout d'abord Beata Mumbeyeyi-Mérès, qui était invitée dans l'émission Littérature sans frontières sur RFI en 2019 pour parler de son livre « Tous tes enfants dispersés ».
Je dirais, comme cette phrase fameuse de Toni Morrison, s'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne trouves pas, écris-le. Et j'avais envie de raconter cette histoire, nos histoires, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et je cherche vraiment à montrer que c'est complexe et qu'il y a plusieurs destins, plusieurs parcours, à travers l'intimité des vies. C'est-à-dire que dans un témoignage, on va avoir l'effet brut, dans un récit, on va avoir la parole rapportée et l'histoire, la grande histoire. Et moi, je voulais montrer comment la grande histoire, justement, impacte la vie des petites vies des gens. Et je pense que la littérature aussi permet de rendre entendable cette histoire. C'est-à-dire qu'on dit souvent c'est innommable. On a dit ça à propos de la Shoah. Et il y a beaucoup de survivants pourtant qui disent non, c'est pas tant que ça soit innommable. Les mots peuvent tout, les mots peuvent raconter même la pire ignominie. Et la question, c'est est-ce que c'est entendable? Et la littérature permet peut-être de faire toucher au cœur de cette histoire et de la façon dont les gens qui l'ont vécu, les survivantes et les survivants, poursuivent leur existence avec cette blessure énorme à des gens dont ce n'est pas l'histoire. Et comme avec la fiction, justement, on rentre dans la vie des gens et on s'identifie à eux et à elles. C'est ça ma démarche, c'est de rendre entendable cette histoire en passant par l'intimité, en passant par des thématiques de maternité, de fratrie, de famille et d'exil aussi, et de construction identitaire, qui sont des thèmes, je pense, qui peuvent parler à beaucoup de gens, en dehors même de l'histoire spécifique du Rwanda.
Rendre entendable, Dorothée Munyaneza, c'est aussi votre travail. Celui de Beata Oumbéye Mérès, ça a été une source d'inspiration aussi.
Toujours. Ouais. Beata Oumbéye Mérès fait partie de ces personnes qui me marquent, qui m'ont marquée. Et je lis et relis ses livres toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose à y puiser, de la force. Et vraiment, Tous tes enfants dispersés a été un livre qui m'a accompagnée durant la période préparatoire de Maï. Et tout du long, je revenais sur ce livre avec les collaboratrices. Je lisais des extraits, parce qu'il s'agit bien de cela. Pour Maï, c'est comment faire rencontrer les histoires intimes pour raconter la grande histoire. Et comment, comme dit Beata Oumbéye Mérès, comment la grande histoire impacte les vies intimes. Et Tous tes enfants dispersés. Disons que moi-même, Maï est une tentative de rassembler des enfants dispersés par la grande histoire, justement. Que ce soit par la traite négrière, les afrodescendantes, toute la diaspora, ou les enfants, justement, des personnes qui ont été arrachées au continent mère, vers le Brésil, vers les Amériques, vers les Caraïbes, et en même temps, la colonisation, ou la période post-coloniale, où nos parents, nos grands-parents sont partis vers les pays européens pour fonder leur vie, trouver un travail, s'y installer, souvent de plein gré ou par obligation. Et puis nous qui les ont choisis aussi, en tout cas choisi de les suivre ou de repartir ailleurs. Et donc cette dispersion, cet éclatement de ce corps, de ces corps, j'en ai choisi quelques-unes pour dire, voilà, sur un plateau, comment je peux rassembler, inviter à réunir, à tisser, à lier ces différentes histoires en passant par le corps et la voix, la musique, pour raconter justement ces différents parcours.
Alors, il y a 5 femmes avec vous sur le plateau dans Maï, mais toute la difficulté de votre travail et puis tout ça, ce qui le rend précieux, c'est la façon dont vous créez les conditions pour que les mots soient entendus, entendables, disait-on tout à l'heure, à partir du plateau, des décors, des mouvements, et pas dans les pages d'un livre. C'est comment le théâtre, la danse, la musique arrivent à transmettre une humanité dans des événements qui sont traumatiques. Dans Maï, on est face à un collectif et en même temps on est face à des individus. C'est très troublant, ça passe notamment par le travail que vous avez mené sur les costumes, avec la designer et plasticienne Stéphanie Couder. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette collaboration avec elle?
Oui, quand je présentais le projet à Stéphanie Couder, qui m'accompagne aussi depuis plusieurs années, et m'a proposé donc de travailler la maille, parce que c'est vraiment ce qu'elle fait, et de tisser, de tricoter à partir de ces matières, de ces tissus, un langage commun, puisque nous avons différents âges, nous avons différentes tailles, différentes même couleurs,
différentes langues aussi.
Différentes langues. C'était important que l'habit fasse partie de cette multitude que nous sommes, parce que en fait, chaque individu, que ce soit Asma Jama, Yinka Essie Graves, Nido Uwera, Ifede, Elsa Mulder, Dorothée Munyaneza, nous sommes différentes. Monde, nous sommes une multitude, et Stéphanie Couder en proposant ces couleurs, ces différents bleus, ces oranges qui sont de, que Christian Dubé, le créateur Lumière, est venu rehausser ou en tout cas accentuer. Ça centre nos récits, ça recentre ses corps, ça recentre nos paroles, ça recentre notre poésie, notre beauté, parce qu'il s'agit aussi bien de cela. C'est comment, à travers l'habit, le costume, on travaille sur la poésie et cette beauté qui est dans la poésie et dans notre insoumission, en fait, notre présence, notre existence.
Puis sur la scène, il y a aussi des habits suspendus qui nous parlent de celles et ceux qui ne sont plus là, ou celles et ceux qui ne sont pas encore là.
Oui.
Hein, mais il y a des micros sur pied pour dire, pour chanter. Donc je reviens au lien entre de parole et mouvement. Comment une parole devient mouvement? Comment un mouvement devient chant? Comment travaillez-vous cela?
Eh bien, oui, effectivement, j'aime quand un corps est traversé de différentes manières, quand le mouvement, justement, crée une torsion, ou en tout cas une position duquel peut naître un son qui lui-même permet une note qui devient un autre espace, et ainsi de suite. Et je travaille toujours à partir d'improvisation. En tout cas, je laisse l'espace à partir d'une pensée, évidemment, élaborée. Mais j'aime bien quand les personnes avec lesquelles je travaille se jettent, ou en tout cas tentent. Je pense que l'espace scénique est l'endroit où on peut oser les possibles, où on peut offrir quelque chose qu'on aimerait voir advenir. Et donc, les possibles, pour moi, c'est à partir de ces improvisations, de ces sensibilités, de cette écoute. Parce qu'en improvisant, c'est pas qu'on est dans son propre monde seulement, mais on est aussi très ouverte, très alerte, très sensible. Et c'est vrai que mes collaborateurs et collaboratrices me connaissent, parce qu'il y en a plusieurs avec lesquels je travaille depuis longtemps. Et donc, il y a beaucoup de textes aussi, notamment dans Maï. Asma Jama, poète, est venue avec quelques poèmes ou d'autres qu'elle écrivait à partir de discussions et d'échanges que nous avions durant la journée, et ou des musiques aussi préexistantes ou celles qu'on créait sur le moment. Et c'est ces moments-là où les choses commencent à ressortir, surgir, et je les attrape pour en faire quelque chose.
Alors avant de conclure cet entretien dans quelques instants, Dorothée Monialza, je voudrais quand même préciser une chose, parce qu'on parle de choses très sombres, très dures, parce que ce sont vos sujets de travail, mais il ne faudrait pas que celles et ceux qui nous écoutent se méprennent s'ils ne connaissent pas encore vos pièces. Dans vos créations, c'est quand même ce qui domine, c'est la force de vie, c'est la joie, opposer la vie à l'horreur.
Oui, la joie est une arme redoutable face à l'anéantissement. C'est ce que me répète souvent, ou m'a souvent répété, Hlengue Madlala Lushaba, qui est une comédienne, danseuse, chorégraphe d'Afrique du Sud. Et c'est vrai que, oui, la vie est une épreuve. Oui, la vie est remplie de moments qui nous ébranlent complètement. Et en même temps, c'est dans les interstices, à ces moments-là, que la joie peut venir faire basculer quelque chose. Et donc, dans mes spectacles, je pense que je suis encore là, parce qu'il y a cette... Je m'accroche à la joie. Et dans Maï, notamment, ça a été une des grandes motivations de cette pièce, c'était comment faire à ce que la joie persiste et que la vie soit au-dessus, soit à travers, soit autour, soit en dessous. Et c'est cette vie-là vers laquelle je tente de tendre chaque jour.
Il me reste à rappeler que ce spectacle Maïs va donc être présenté du 25 au 28 janvier, donc cette semaine, au Théâtre National de Chaillot. Il me reste à vous remercier, Dorothée Monialza, d'avoir été notre invitée ce soir.
Merci beaucoup. Merci.
France Culture. Culturel, Arnaud Laporte.
C'est à présent l'heure d'Affaires Critiques. Bonsoir Lucille Como.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez de Terminus Malocène, de Daniel Pennac, qui vient de sortir chez Gallimard.
Oui, Terminus Malocène, comme son nom l'indique, c'est le dernier opus d'une série que Daniel Pennac a commencé en 1985 avec Le Bonheur des Ogres. L'histoire d'une famille, les Malocènes, tissant leur réseau dans le quartier parisien de Belleville, famille dysfonctionnelle au sommet duquel flotte une présence-absence en la personne éthérée de maman et de laquelle découlent de multiples enfants aux pères inexistants, dont le premier indûment nommé Benjamin Malocène est le narrateur. Famille constituée de frères et sœurs, mais aussi dans les derniers tomes de leurs enfants, tous affublés de noms pas possibles, hein, C'est un ange, Verdun ou autre Le Petit. Famille élargie aux voisins, aux compagnons plus ou moins provisoires, aux tenanciers de bistrots et de restaurants de couscous, mais aussi aux malfrats et aux flics qui font le quotidien des Malocènes puisqu'il leur arrive toujours des misères. Complots, crimes, massacres, manipulations en tout genre, tout ce qui agite la capitale, voire même la France, concerne d'une manière ou d'une autre les Malocènes, ce que Benjamin incarne à lui tout seul, lui qui fait profession depuis les débuts et dans diverses institutions de bouc émissaire. Alors Terminus Malocène s'installe assez confortablement dans cette matrice originale qui a fait l'immense succès de la série, en remettant la tribu Malocène au cœur d'un bordel sans nom, impliquant un vieux tueur méthodique nommé Pépère, à la tête d'une armée de jeunes gens, un vaste trafic de footballeurs brésiliens, un projet d'attentat artistique, bref, à nouveau cette espèce de fond policier que Pennac réussit à tisser en ménageant suspense et révélation avec toujours, je trouve, la même maîtrise. On y trouve son compte à ce récit qui ne manque pas de cruauté, comme la série savait la distiller. Pépère campe un monstre convaincant, avec sa chevalière munie d'une petite lame, sa sacoche en cuir maniaque, ses multiples coups d'avance et surtout cette galerie de jeunes gens qui l'entourent, venus de la rue, de quartiers populaires, de grandes écoles, de la campagne, tous en tout cas moulés dans la même main de fer pour être poli, ne pas bavarder, savoir tirer ou massacrer, placer de l'argent ou faire circuler la marchandise. En fait, Pennac met en scène dans ce dernier volume l'envers d'une tribu malocène. Pépère est l'inverse de maman dans son désir de contrôle, à la tête d'un groupe hyper fonctionnel, hyper adapté, qui nie les identités, quand celle des membres de la famille Malocène trouve toujours la place de s'étaler dans leur bizarrerie et leur incongruité. Cette mise en perspective est particulièrement savoureuse et la révélation finale qu'il a nous aussi, je ne vais pas révéler. De ce point de vue, Pennac réussit à terminer Malocène dans la continuité formelle, sans tour de force, et ce n'était pas gagné.
Vous qui avez adoré comme moi cette série, on vous sent très convaincue, Lucille.
Oui, moi j'ai été biberonnée depuis mes 10-12 ans à Malocène. Vraiment, j'ai lu, relu les tomes, j'ai grandi comme lectrice avec ces personnages. Je pense que je suis vraiment imprégnée. Et il m'a quand même manqué à la lecture de ce dernier volume la saveur. Quelque chose dans le style Malocène qui tient du goût, de l'odeur, du toucher, qui fait que les personnages, les lieux, les situations sont au départ tellement incarnés. Des fumées du chien Julius, la poigne d'un vieux flic qui tient toujours un enfant contre sa poitrine, le timbre d'une voix à l'agent Gabin, le goût de la harissa dans la semoule, la douceur ou la sécheresse des corps, tout ça manque. Et j'ai assez vite compris pourquoi. En fait, Benjamin Malocène s'efface. Il est quasi absent de ce dernier volume. Or, toute cette vie très charnelle, elle était très ancrée dans sa parole à lui, dans sa voix, sous la forme de monologues intérieurs remplissant souvent des nuits sans sommeil sur les trottoirs de Belleville, chien en laisse. Une voix qui enveloppait le lecteur dans une empathie immédiate et renouvelée et qui a laissé place dans ce dernier tome à quelque chose d'une narration beaucoup plus omnisciente, au risque de la froideur et de la désincarnation. J'y lis une forme de mélancolie, une manière peut-être de laisser pour l'écrivain doucement partir son avatar et d'épargner au lecteur une rupture trop brutale.
Curieux, d'autant plus de le lire. Mais j'entends des bémols quand même concernant ce Terminus Malocène de Daniel Pennac qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Merci Lucille Como. Affaire en cours à présent, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Vous analysez ce soir, vous, une série japonaise, rien que ça.
Oui, et le cinéaste japonais Palme d'Or à Cannes en 2018, Hirokazu Koreeda, propose pour la première fois une série en 9 épisodes disponible sur Netflix.
Aomori kara kimashita, Herae Sumire to
Nozuki Kiyo desu.
Ota no moushimasu.
Sou sou.
Ota no moushimasu.
Chi wa tsunagatte hen kedo, minna kazoku ya to omote choudai.
今時住み込みでこんなタコ部屋を仕込んでやれトイレ掃除や洗濯やって逃げた方がいいと思うわキヨさん下げすぎおいどもうえあんたには舞妓ちゃんは向いてへんと思うわ
あら
Il choisit d'adapter Koreeda le manga à succès d'Aiko Koyama et plonge ainsi dans une maison traditionnelle à Kyoto où les jeunes filles se forment pour devenir geisha car leur présence contribue toujours aujourd'hui à l'économie du tourisme de la ville. Makanai dans la cuisine des Maiko, c'est le nom de cette série, suit l'apprentissage de deux amies, l'une dotée de grâce qui va apprendre les arts traditionnels, la danse, la conversation, et l'autre douée d'un enthousiasme communicatif qui va cuisiner pour tout ce gynécée. La particularité de cette série, c'est qu'il n'y a ni intrigue, ni dénouement, ni méchant, ni drame, mais une élégance qui inonde chaque image et beaucoup, beaucoup de temps consacré à la cuisine. Je suis allée demander à Steven Sarrazin de nous en dire plus sur cette série qui déjoue les codes des séries. Steven Sarrazin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez le cinéma à Paris 8 et à l'Université d'Art de Tokyo. Qu'apporte selon vous le format série au cinéma de Koreeda ?
Eh bien, en 2006, Koreeda, il avait réalisé un film qui s'intitulait Hana, qui à ce jour reste son seul film d'époque, son seul film de costume hein, de samouraï, on dira. Et à cette époque-là, ça lui avait donné l'occasion de se pencher un petit peu dans l'histoire du Japon, l'histoire ancienne du Japon, alors que Koreeda est un cinéaste qui se penche vraiment sur des sujets de société, des sujets contemporains. Alors la série dont nous parlons, elle lui a donné en partie l'occasion de se pencher sur cet univers, l'univers des Maiko et des Geiko, et de se familiariser, de se pencher donc sur les arts, les coutumes, les pratiques à l'intérieur d'un tout petit périmètre dans une ville qui n'est pas très grande, qui est Kyoto. Et donc à travers la série, Koreeda a eu le temps de se pencher sur une partie de l'histoire du Japon, mais en même temps ce n'est pas la préoccupation principale du projet, parce que Koreeda avait tourné des épisodes de feuilleton auparavant. Le projet de cette série pour Koreeda, c'était aussi quelque part de amener une part d'optimisme, de quelque chose de positif. Il avait fait les recherches avant de tourner, il s'était rendu à Kyoto, et tout ça était à l'époque du Covid. Et donc, évidemment, plus personne ne se promenait dans les rues de Kyoto, évidemment, aucun visiteur. Et en discutant, parce qu'à la base, Koreeda vient d'un univers qui est celui du documentaire, Koreeda s'est entretenu avec plusieurs des commerçants de légumes, de plats, de restaurants, et puis ensuite les gens qui tiennent ces maisons que nous découvrons dans la série. Et comme bien d'autres commerçants, ils étaient terrifiés de perdre leur commerce, de perdre aussi ces traditions. Et donc du coup, la série devenait aussi emblématique de quelque chose qu'il fallait protéger, communiquer. Et puis, en même temps, il y a une question qui se pose, qui est un enjeu qui est peut-être un peu plus contemporain, qui est que nous avons là deux jeunes filles qui ont 16 ans. Nous sommes au 21e siècle. Ce sont des jeunes filles du 21e siècle qui font néanmoins le choix de se consacrer à ces très vieilles traditions. Et si elles vont jusqu'au bout, c'est-à-dire de passer de Maiko à Geiko, alors une fois qu'elles deviendront Geiko, leur métier ce sera de converser, danser, des danses traditionnelles, chanter pour, en gros, de riches hommes d'affaires. Et donc il y a quelque chose en même temps qui reste, voilà, qui ne bouge pas par rapport au lien entre cet usage plus ancien de la femme japonaise par rapport aux hommes.
Mais est-ce que c'est une vision réaliste du Kyoto contemporain ou du Japon contemporain ? Est-ce que ça existe réellement aujourd'hui, ces maisons-là ? On a l'impression qu'on est dans un temps un peu immémorial dans cette série.
Oui, tout à fait. Je vous dirais que oui, ça existe toujours. Je ne sais pas si ça attire toujours autant les jeunes filles qu'auparavant, mais oui, ces maisons sont toujours là. Et si on se rend à Kyoto à la fin de la journée, on entendra le son des Maiko qui marchent dans la rue. Donc oui, c'est toujours là. Mais dans la série, oui, on a un Kyoto qui est un peu qui est un peu fantasmé, comme le manga ou la série animée qui a également été réalisée à partir de, oui, de ce même manga. Donc voilà, ce Kyoto, en fait, le Kyoto des dernières années, avant le Covid, c'était une ville qui était devenue, si vous voulez, comme Paris ou Venise ou Barcelone, qui connaissait un succès touristique effarant. Mmh. Effarant. Et alors que là, ben, dans la série, hein, on le voit bien, il n'y a personne. Non, il n'y a personne dans les rues.
Mais c'est peut-être ça qui est très reposant et élégant. Makanaï dans la cuisine des Maïko est disponible et visible sur Netflix. Et votre ouvrage, Réponse du cinéma japonais 1990-2004, est lui aussi toujours disponible aux éditions Leitmotiv. Merci beaucoup, Steven Sarrazin.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la metteuse en scène Julie Bérez. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre spectacle La Tendresse poursuit sa tournée un peu partout en France, mais aussi en Belgique. Si on se souvient du précédent spectacle, Désobéir, vous y aviez une distribution exclusivement féminine. Dans La Tendresse, ce sont uniquement des hommes qui s'expriment pour un spectacle qui les amène à s'interroger sur la construction masculine. 8 hommes sur le plateau qui racontent leur vision de la virilité dans une époque où celle-ci a été largement remise en question comme signe positif ou valorisant. Alors comment est-ce que vous avez, dans un premier temps, Julie Bérez, choisi vos interprètes et comment le spectacle se nourrit-il d'eux ?
Dans un premier temps, ce n'est pas le choix des interprètes, mais plus le choix des thématiques, je dirais. Et voilà, ce désir de comprendre comment on ne naît pas homme, mais on le devient, comme nous dirait Simone de Beauvoir. Et donc de comprendre quel type de masculinité on voulait interroger et avec qui subissait quelle injonction contradictoire. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir parler aujourd'hui de l'homme contemporain dans un monde comme le nôtre, berceau catholique, et puis dans un libéralisme qu'on connaît. Et du coup, de se dire que voilà, qu'on voulait à la fois des hommes misogynes, mais qu'une fois par semaine, qui gagnent bien leur vie, mais qui soient des bons papas, qui soient conscients qu'il faille tout le temps avoir envie de faire l'amour, mais sans jamais imposer son désir. Enfin, qui est déjà un petit peu un éveil sur les difficultés que c'était pour eux aujourd'hui de répondre à toutes les attentes de leur communauté, de leur famille, de leur compagne ou de leur compagnon. Et puis surtout, c'était d'interroger et de choisir que des jeunes hommes très marqués par le mouvement MeToo. Parce que je pense que la génération des 25 ans, 30 ans, voilà, il y a vraiment un avant et un après MeToo. Et après, c'était important pour nous que ce soit un groupe assez hétéroclite et de gens issus de milieux sociaux différents, de religions différentes et de milieux éducatifs, enfin, qui avaient subi et connu des codifications différentes. Même si finalement, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes ou des colonisations de l'imaginaire, ou des stéréotypes et des archétypes qui avaient su traverser les siècles, notamment sur la question du patriarcat, et quel que soit le milieu social et la religion, finalement, ils arrivaient à se comprendre, et il y avait quand même des stéréotypes qui avaient remporté toutes les victoires et qui continuaient à résister malgré le temps, et malgré les mouvements féministes, et malgré MeToo, et malgré toutes les évolutions de notre époque.
Alors sur scène, on voit ces hommes à la fois comme un cœur dans le sens très classique de la tragédie, et en même temps il y a une présence importante de la danse très contemporaine, crump, hip-hop plus généralement. Comment ces deux éléments, le très classique et le très contemporain, se sont imposés dans votre travail ?
Alors, depuis des années, de toute façon, je travaille avec des interprètes qui ne sont pas toujours comédiens, mais aussi issus d'autres formations, dont la danse. Donc ça, c'est plutôt pour continuer à faire un théâtre que je m'amuse à appeler un théâtre performatif, c'est-à-dire où les idées vont être incarnées très fortement par des corps et pas uniquement par les textes. Et là, c'était beaucoup sur la question de l'injonction à la force, à la survirilité, parce qu'en plus, j'ai été assez marquée par le fait de voir qu'il y avait un retour très marqué aux salles de sport. Et du coup, c'était quand même une chose qui reste très présente, c'est le fait que le masculin, alors certainement par des siècles d'histoire de soldats, de guerre, et que c'était voilà, eux qui sauvaient les patries, les femmes et les enfants, ça a certainement marqué des générations entières. Mais au-delà de ça, On se rend bien compte qu'encore aujourd'hui, le masculin reste conditionné et qu'on peut être considéré comme un sous-homme. Et donc, on peut nous enlever le fait d'être considéré comme un homme, ce qui me semble être moins présent chez le féminin, en tout cas moins conditionné au corps uniquement. Et là, des récits très anciens, très classiques, très archaïques continuent à traverser nos générations des trentenaires qui nous racontent que les vestiaires, ça peut rester l'angoisse totale parce que ça se mesure et c'est quand même toujours important d'avoir, d'être capable de revendiquer, d'avoir un sexe important. Ça se prend des coups et si ça ne répond pas, alors on a un faible, alors on a un lâche, alors on a un fragile. Ça pleure pas, ça se confie pas, ça voudrait pleurer plus et se confier plus, mais ça ne raconte pas forcément ses ruptures, ses désolations, ses échecs et ses faiblesses. Donc c'est tout cet conditionnement du corps qui nous intéressait et aussi de venir provoquer le masculin dans sa capacité ou dans le fait qu'on lui met énormément de pression encore dans le fait de devoir se dépasser, d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort, d'être, de pas être... le fragile de la bande et de savoir s'affirmer aussi par la force physique.
Merci Julie Berès pour ces quelques éléments sur ce spectacle bien riche, La Tendresse, qui se jouera du 31 janvier au 3 février au Grand Thé à Nantes et qui poursuit sa tournée à venir du 7 au 11 février au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, puis au Centre culturel Athéna Auray le 2 mars à Quimper, le 7 et 8 mars au Théâtre de Cornouailles, à Namur en Belgique du 15 au 17, à Fos, à l'Espace Germinal le 21 mars, au Théâtre d'Angoulême le 24 mars et à La Lagrin à Bayeux. Le 27 mars. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster via le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.
Racontez-nous ce livre qui vous a tant marqué, l'auteur ou l'autrice qui ne quitte plus votre table de chevet. Tenez, quels sont les petits nouveaux dans votre bibliothèque ?
Nicolas Herbeau.
C'est à vous de jouer. Lecteur, lectrice, auditeur, auditrice de France Culture, partagez vos avis, vos envies, vos points de vue.
Salut Book Club, c'est Chloé.
Pour faire aimer les livres et la lecture,
c'est un livre coup de poing.
C'est ensemble qu'on prépare cette émission. Le Book Club de France Culture, c'est d'abord le vôtre.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, France Culture. Et l'appli Radio France.